Émission de Femmes Libres de ce programme. Et aujourd'hui, nous allons n'en passer qu'une seule partie qui va concerner avec Mariama, pour l'émission bien sûr Pas de quartier qui va débuter d'ici très peu de temps. Mariama, l'animatrice habituelle, c'est une émission, disons, enregistrée. Mariama recevait en mars 2026 au sein de l'émission Femmes Libres une personne qui était venue parler de l'ESMA. C'était un lieu de détention, de torture, pendant la dictature en Argentine, fin des années 1970, tout début des années 1980. D'ailleurs, cette dictature s'arrêtera en 1983. Donc voilà, je vous souhaite une agréable écoute. Vous pourrez en savoir un petit peu plus en écoutant cette émission, avec un petit peu plus de détails, bien sûr. Voilà, nous vous remercions de votre écoute. À très bientôt.
Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, interrogez les rues d'un gars sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tard, cela peut arriver au prophète, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi casse les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perds la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche aux crèves. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry-Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je ne vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de mes petits futurs, l'angoisse ou de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, s'agit des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
La rage. passons à un livre qui s'intitule « Crime contre l'humanité à l'ESMA, anatomie d'un centre de détention clandestin en Argentine, 1976-1983 ». C'est une interview de Marina Franco et Claudia Feld et que nous avons menée ensemble avec Mariama Keïta de l'émission Pas de quartier. Nous les avons rencontrées de passage à Paris pour l'ouvrage donc, qu'elles ont coordonné et qui est paru chez Anna Mosa en ce début 2026. Dans le même temps, selon Mediapart, nous apprenions qu'à la Maison de l'Argentine, à la Cité internationale universitaire de Paris, la direction de cet établissement, confiée par le président du gouvernement argentin Javier Milei à Santiago, et ça a été confié donc la direction à Santiago Musio, la plaque commémorative en hommage aux 30 000 disparus de la dictature militaire argentine, donc cette dictature 1976-1983, eh bien cette plaque a été retirée le 10 février dernier. De plus, les locaux sont utilisés aujourd'hui par des groupes d'extrême droite européenne. Alors cette plaque commémorative avait été installée en 2022 par l'Assemblée des citoyens argentins en France, la CAF, A-C-A-F, et d'autres organisations de défense des droits humains. Elle fut posée à l'occasion de la Journée nationale de la mémoire pour la vérité et la justice. Elle rendait hommage aux victimes du terrorisme d'État argentin, conformément à la loi argentine numéro 25.633 du 22 août 2002. La CAF a immédiatement réagi quand la plaque a été retirée par une lettre dirigée au directeur Musio exigeant la réinstallation de la plaque et le respect de la loi. Ils disent « À 50 ans du coup d'État de 1976, ce retrait est particulièrement grave et exige des explications. » Santiago Musio, proche des milieux ultra-conservateurs argentins et associé de la députée européenne Marion Maréchal Le Pen, a transformé la Maison de l'Argentine en un lieu d'accueil pour des formations et conférences d'extrême droite. En 2025, les locaux ont été utilisés pour des modules de l'Institut de sciences sociales, économiques et politiques, une école privée fondée par Marion Maréchal Le Pen, ainsi que pour des réunions de think tanks polonais et hongrois proches de Viktor Orban, associés à l'Institut de formation politique et à la Bourse Tocqueville. Ces derniers sont en relation avec le projet Périclès du millionnaire d'extrême droite Pierre-Édouard Sterrin. Et le 4 novembre 2025, une conférence organisée par Ordo Iuris et le Matthias Corvinus Collegium a réuni des personnalités de la droite radicale française et européenne en violation de l'article 13 du règlement de la maison avec la présence de membres du Rassemblement national et d'autres groupes de l'extrême droite opposés à l'Union européenne. La Maison de l'Argentine, bien que propriété du ministère argentin de l'Éducation, est intégrée à la CIUP. Alors la CIUP, c'est, j'ai oublié le nom, le Centre international universitaire de Paris, et doit respecter sa charte des valeurs garantissant la laïcité, la non-discrimination et le développement durable. Depuis l'arrivée de Musio, la direction refuse de signer cette charte, entraînant la suspension des échanges avec d'autres maisons de la CIUP. Face à cette situation, le comité de résidents de la maison a, pour sa part, signé la charte. Par ailleurs, un signe religieux ostentatoire a été installé à l'entrée de la résidence, une première dans l'histoire de la maison. Heureusement, plusieurs initiatives sont programmées pour le 50e anniversaire du coup d'État, des colloques comme celui réalisé le 25 et le 26 février au campus Condorcet, des débats, des projections de films, des présentations de livres organisées par l'ACAF et par l'Observatoire de l'Argentine contemporaine, courant des mois de mars et d'avril, sont quelques exemples d'une multitude d'initiatives programmées aussi dans d'autres villes de France. L'ACAF appelle à un rassemblement unitaire à proximité de l'ambassade d'Argentine à Paris, au métro Boissière, le 24 mars à 18h, pour rendre hommage aux 30 000 disparus et dénoncer les politiques négationnistes, ultralibérales et d'atteinte aux droits humains du gouvernement de Javier Milei. La CAF, dans le cadre du mois de la mémoire, à 50 ans de la dictature argentine, c'est le 24 mars 1976, a organisé un débat au CICP le lundi 9 mars sur l'histoire politique des coups d'État en Argentine de 1930 et de 1976. Là, nous allons maintenant donner la place à Marina Franco et Claudia Feld, interviewées par Mariama et par moi-même.
Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paz. paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida.
Eh bien, bonsoir. C'est une émission un peu spéciale puisque elle va être co-animée par deux militantes de la Fédération anarchiste. Mariama, bonsoir.
Bonsoir Hélène.
Et c'est pour Pat Cartier. Et Hélène, c'est pour l'émission Femmes Libres. Voilà, et nous accueillons avec un grand plaisir Marina Franco et Claudia Feld pour un livre qu'elles ont co-dirigé avec d'autres personnes. Un livre hyper important pour moi, en tout cas, moi qui suis un peu d'origine espagnole. Voilà, parce qu'on a connu ça aussi en Espagne. Crime contre l'humanité à l'ESMA, anatomie d'un centre de détention clandestin en Argentine entre 1976 et 1983, et c'est aux éditions Anna Mossa. Et les éditions ont fait un très joli livre, puisqu'on a des photos des rescapés de la torture à l'ESMA en filigrane sur la couverture. On a même le plan de l'ESMA avec les différents éléments dans lesquels les personnes étaient séquestrées et torturées, voire tuées, quand ce n'était pas balancé par un avion dans l'océan. Voilà, et donc une très belle édition, bien présentée.
Alors, l'ESMA, on va donner le nom exact de l'ESMA.
École de mécanique de la marine. C'était une école, en fait.
Une école supérieure. Une
école supérieure, et c'est un énorme enceinte de 17 hectares avec une trentaine de bâtiments, dont un qui était le plus important pour les centrales de détention clandestines, et l'école fonctionnait en même temps et que se déroulait cette activité répressive.
En plein centre de Buenos Aires.
Oui, dans un quartier très résidentiel, très connu, où il y a beaucoup de monde. Ce n'est pas le centre-ville, mais c'est un quartier vraiment...
Alors, il y a eu plus de 600 centres de détention clandestine dans toute l'Argentine. Pourquoi l'ESMA est si emblématique?
Bon, alors, c'est la question centrale du livre. Donc,
mais oui.
C'est la question qu'on se pose tout le temps, c'est pourquoi l'ESMA a été si important. La première chose à dire, peut-être la plus claire, c'est qu'à l'ESMA, ils ont passé 5000 victimes. Donc en Argentine, on ne sait pas exactement combien de disparus il a eu. On pense et les calculs sont entre 20 000 personnes et 30 000 personnes. Donc si vous pensez que par l'ESMA, ils se sont passés 5000 victimes et ils ont survécu 300, ça veut dire que l'ESMA représente mais vraiment une très bonne partie de la répression en Argentine. Donc ça, c'est la première chose. Donc l'importance au niveau des chiffres. La deuxième chose, c'est ce que Claudia vient de dire, c'est le fait que l'ESMA est un centre clandestin d'attention qui a fonctionné à Buenos Aires, dans un quartier résidentiel, devant une avenue très très connue et importante de la ville de Buenos Aires. Troisième chose, là on commence à vraiment arriver au cœur de cette histoire, c'est qu'à l'ESMA, il se sont passées des choses mais vraiment différentes de ce qui s'est passé dans le reste des centres clandestins. Je pense qu'on va développer ça au fur et à mesure de l'interview, donc je m'arrête là.
Oui, en fait, votre livre, c'est un avant-propos pour l'édition française, parce qu'il est sorti en espagnol, après le
2022.
Après le Covid. Mm-hmm. Il y a 7 chapitres. Je vais, si tu es d'accord pour qu'on donne l'intitulé des chapitres. Mm-hmm. Torture, assassinat et disparition, viol et pouponnière, organisation économique, travail forcé, destruction de preuves.
Déjà avec les titres, on comprend de quoi il s'agit. Alors, par rapport aux disparitions, on a envie aussi que cette émission, enfin ces deux émissions, pensent au maire de la place de Mai, celle qui, pendant des années, ont tourné pour réclamer dans leur famille les disparus. Hein. Et aussi, et dans le livre, vous le montrez bien, ces disparus, c'était des jeunes, beaucoup de jeunes. Et donc, c'est la relève de l'Argentine qui était aussi visée. Hein. Alors, les Montoneros, ok, mais...
Il y avait des syndicalistes, des ouvriers,
voilà,
et des artistes.
Oui, mais c'est la jeunesse. On a cassé la jeunesse au travers de ces centres de détention et en particulier à l'ESMA. Donc voilà, on avait envie de faire un hommage ou un fémage, comme on dit, à toutes ces femmes et qui, en plus, ont donné idée à d'autres femmes, je pense aux femmes en noir, dans différents autres pays et dans les pays arabes en particulier, qui ont donné idée que les mères, les grands-mères, se mobilisent aussi, quoi, pour demander où sont les disparus. Parce que non seulement ils ont disparu, mais on ne trouvait pas leur corps. Et bien sûr qu'il y a plein de corps qu'on ne retrouvera jamais, parce que quand on balance des corps en avion dans l'océan, on est sûr et certain qu'on ne pourra jamais les retrouver.
C'est vrai que la plupart des disparus, c'était des jeunes femmes et des jeunes hommes. Mais je veux dire aussi qu'à l'ESMA, il s'est produit les premiers coups qui ont suivi les mères de la place de Mai, qui ont disparu et elles-mêmes, qui ont été enlevées et puis tuées. Et il y avait un groupe de mères de la place de Mai qui se réunissait dans une église de Buenos Aires qui s'appelle l'église de la Santa Cruz. Mm-hmm. Et c'est là, et grâce à un marin qui les a espionnés, qui s'appelle Alfredo Astiz, et qu'il y a eu un enlèvement collectif. Et dans cet enlèvement, il y a eu plusieurs mères disparues, mais aussi de religieuses françaises, Alice Lomont et Léonie Duquet. Mmh. Mais ces mères, donc dans les groupes de mères, il y avait aussi, il faut le dire, la présidente des mères de Place de Mai de ce moment-là, qui s'appelait Azucena Villaflor. Et voilà, elle a été enlevée et tuée. Et ça a été un coup énorme pour la mobilisation à ce moment-là des mères.
Alors...
Mais de toute façon, c'est la vie. On peut vraiment revenir sur les problèmes de pourquoi les jeunes ont été les victimes les plus importantes de la répression. C'est parce que la cible de cette répression militaire était surtout les organisations révolutionnaires armées de l'époque. Et donc, c'était des organisations, comme partout en Amérique latine, dans les années 60 et 70, c'était des organisations issues du monde des classes moyennes, jeunes, des universitaires, des étudiants. Donc, la plupart d'eux étaient jeunes. Et ça explique aussi une autre particularité de l'ESMA sur laquelle on va revenir, j'imagine, qui c'est la quantité de femmes enceintes qui ont été séquestrées et qui ont vraiment accouché à l'ESMA. Donc ça, c'est lié au fait que la répression a touché vraiment surtout les jeunes.
Et on les a volontairement accouchés et on a enlevé ensuite immédiatement les bébés. Mais ça, on en reviendra par la suite. Ce que je voudrais revenir, c'est sur le fait que vous expliquez bien dans l'avant-propos du livre que la violence de l'ESMA, elle n'a pas existé de façon isolée. Elle est insérée dans un panorama plus vaste dans le XXe siècle le siècle dernier, en Argentine, et que ce sont des racines de la violence plus ancienne. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que vous voulez dire par là ?
Alors, c'est une longue histoire.
Mais on a le temps.
D'accord, allez-y. Bon, j'y vais. Et la première chose à dire, c'est que la répression de la dernière dictature en Argentine, donc la répression qui a permis l'existence de l'ESMA, c'est une répression qui fait partie de toute une histoire de violences politiques et de violences d'État. Mais à la fois, c'est une répression complètement singulière, exceptionnelle. Donc la complexité du truc, c'est vraiment de montrer à quel point ça fait partie d'une histoire plus longue et à la fois c'est exceptionnel. Donc pourquoi, comment cette histoire plus longue en Argentine depuis 1930, on a eu des coups d'État presque pendant tous les gouvernements. Donc tous les gouvernements démocratiques ont été déplacés par des coups d'État militaires et bien sûr répressifs. Donc ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que pendant tout le XXe siècle, les forces armées ont fait partie des forces de sécurité qui ont persécuté ce qu'à l'époque s'appelait l'ennemi intérieur. Donc, au début du XXe siècle, c'était les anarchistes, bien sûr. Après, oui. C'était les communistes. Après, c'était les péronistes. Après, c'était les organisations révolutionnaires. Mais il y a eu toujours un rapport entre la violence politique, la violence d'État et la persécution idéologique sur le fait qu'il y avait un ennemi antérieur à persécuter. Et cet ennemi, dans les années 70, c'était la subversion, la subversion marxiste.
Voilà.
Et donc, tout ça, on peut dire vraiment que ça traverse le XXe siècle argentin avec une place très importante pour les forces armées. Ça, il faut le dire. Elles ont été toujours soutenues et accompagnées par des acteurs civils, bien sûr. Mais la violence d'État a été exercée dans une bonne partie par les forces armées.
C'est-à-dire que même quand Perón revient, l'armée a quand même des prérogatives et surtout le territoire, elle continue à réprimer. C'est incroyable de penser ça.
Oui et non. Donc, d'un côté, c'est vrai. De l'autre côté, la grande tragédie argentine, que c'était même Perón qui a, vraiment Perón et après son épouse, qui a poussé la répression. Donc, dans les années 70, avant la dictature, la tragédie, c'est que ça a été les gouvernements démocratiques de Perón et le péronisme, surtout de droite, qui a poussé les forces armées
à intervenir, voilà. Mais cela dit, il faut dire qu'il y a un changement énorme après le coup d'État. Donc que la disparition comme méthode, comme système, voilà, visant des milliers de personnes partout dans le pays, avec des centaines de centres clandestins de détention, etc., c'est grâce au coup d'État, grâce à l'énorme pouvoir qu'ils avaient, donc les forces armées, et à l'énorme impunité qu'ils avaient pour agir et pour faire n'importe quoi, du point de vue de la violence et développée, de la violence qui s'étendait partout.
La complicité historique se démontre à quel point la répression de la dernière dictature est une continuité et à la fois un saut qualitatif énorme. Donc c'est ce que Claudia vient de dire. Donc, il y a une différence entre la répression avant la dictature et pendant la dictature.
Et aujourd'hui, avec Javier Milei, on se retrouve dans une situation où on casse tous les services publics et que ça remet aussi en question le musée qui avait été prévu pour la mémoire de ce qui s'était passé à l'ESMA. Alors, et donc là, je crois que le 24 mars, comme c'est l'anniversaire des 50 ans du coup d'État, il va y avoir des annonces.
Oui, on sait que d'abord, Javier Milei et son gouvernement sont contre tous les processus de justice et de vérité et de mémoire qui a mené l'Argentine pendant 40 ans. Donc on a 40 ans de démocratie avec des moments d'impunité, des moments de grâce présidentielle, des moments de lois et d'amnistie, mais la plupart de ces temps a été accepté qu'il fallait faire quelque chose pour réparer l'énorme violence et les atrocités et commises par les militaires, non? Mais le gouvernement de Javier Milei exprime une faction, une partie de la société qui était minoritaire il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps, qui était contre cette histoire, qui voulait au contraire revendiquer les crimes dictatoriaux, et parce que selon eux, c'était des crimes de libération de la patrie, etc. C'est le même discours qu'il y avait les militaires eux-mêmes à ce moment-là. Mais la surprise, c'est que non seulement il y a des gens qui soutiennent ça, mais que maintenant c'est un gouvernement qui soutient ça. Et entre autres, donc les différentes mesures pour contrer tout ce qui a été fait jusqu'à là, c'est justement de changer le scénario du musée et raconter une autre histoire qu'on ne sait pas comment sera faite. Donc on verra le 24 mars, donc il n'y a pas une annonce officielle, donc on sait que ça va se faire, mais la surprise sera bon. Qu'est-ce qu'il va dire sur l'ESMA, dedans, donc dans le bâtiment où se sont commises ces atrocités, mais bon, pour dire quelque chose d'autre, on verra.
Alors, l'ESMA a été fondée en 2015 et la consécration du musée, c'est septembre 2023 lorsqu'elle a été classée à l'UNESCO, hein, il faut le savoir. Ça va peut-être protéger le musée, non? Vous ne pensez pas?
Non. En fait, le fait que l'ESMA a été choisi comme patrimoine de l'humanité à l'UNESCO en 2023 avait justement l'idée, c'était justement de protéger les sites de mémoire des gouvernements de droite en général. C'était ça l'idée tout au début du projet. Et maintenant, on découvre que ce n'est pas suffisant. Mm-hmm. Et on sait bien que le gouvernement de Milei a déjà vraiment affecté le fonctionnement du site de mémoire, dans le sens qu'il n'y a presque pas de visites parce qu'il n'y a pas d'employés. La plupart d'eux ont été virés, même la ancienne directrice du site de mémoire. Donc, d'un côté, il y a ça. De l'autre côté, bien sûr, comme Claudia a dit, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que le gouvernement va faire avec l'ESMA, mais on envisage une chose assez claire, c'est que le changement du scénario, le changement de texte, de panneau du site de mémoire va aller vers la justification de la répression. Donc, si en Argentine, on ne parle pas de négationnisme, on parle de justification de la dictature. C'est encore pire, si vous voulez. Donc, on pense que ce que le gouvernement va faire, c'est de changer les textes des panneaux pour expliquer que la répression était nécessaire et que les militaires ont fait un travail qu'il fallait faire. Oui, c'est ça qu'on imagine.
Et que les morts sont bien morts. C'est ça le problème. C'est pas seulement justifié exactement donc au niveau politique, mais
il n'y a pas de disparus, il n'y a que des morts.
Non, mais il y a des disparus, ils sont bien disparus. C'est ça les scénarios, c'est ça la narratif ou le récit qu'ils veulent passer. Donc, comme quoi, et quand il y a un ennemi, il faut le tuer. Et si c'est par des moyens comme illégaux, comme c'était la disparition forcée des personnes, bon, c'est bien parce qu'il fallait le faire. Donc, c'est le problème, c'est pas seulement justifier la répression en tant que telle et le justifier politiquement, mais faire comme si le crime n'était pas un crime. Pas comme s'il n'était pas existé, mais comme s'il n'était pas un crime.
Alors, vous dites bien ceci dans votre première introduction. Vous dites que le contexte actuel, c'est de dire que le terrorisme d'État fait partie du passé, mais le discours de haine, l'autoritarisme politique, la violence étatique et institutionnelle, les persécutions, les stigmatisations quotidiennes de divers pans de la société qui maintiennent une pauvreté et la marginalité, c'est le présent. C'est ça. L'extrême droite est au pouvoir en Argentine.
Exactement.
Et leur programme, c'est ça. Exactement. Et l'ESMA, c'est symbolique. La lutte autour de l'ESMA et votre livre, c'est une lutte symbolique.
Tout à fait.
Et nous sommes ravis de vous avoir ce soir.
Merci beaucoup. Mais si vous me permettez, j'ajoute une chose. C'est plus que symbolique. Parce qu'en fait, on comprend parfaitement que dans les discours de justification de la disparition forcée des personnes, de justification de la répression, on voit aussi une manière de justifier la répression du présent. Donc ça permet de dire à la population et à la société argentine, si vous allez protester et dénoncer ce qu'on fait, ça peut vous arriver.
Ouais, ça va.
Donc il y a aussi un côté tout à fait politique et actuel, et c'est pour cela qu'on pense que l'histoire de l'ESMA parlait du présent, du passé et du présent, bien sûr.
D'accord.
Vous pourrez peut-être revenir sur qu'est-ce que vous entendez par terrorisme d'État, hein, parce que dans le livre, on voit qu'il y a l'armée, la police et l'organisation clandestine. Ces trois éléments qui font que on a affaire à un terrorisme d'État, alors que c'est pas uniquement le pouvoir politique.
Oui, c'est comme ça. Et évidemment, la dictature argentine a appris un peu la leçon de la dictature chilienne qui s'est produite 300 ans auparavant. Mmh. Et ils ont vu comment le monde est condamné l'énorme violence de ces coups d'État au Chili et les milliers de morts sous les jours, sous la lumière du jour. Donc, et entre autres, et par différentes raisons, ils ont mis en place un système de disparition forcée des personnes avec, comme vous avez dit, des centaines de centres de détention clandestines où les circuits étaient à peu près pareils pour tout le monde. Donc, c'était l'enlèvement des militants, la torture pour extraire des informations, puis
l'élimination.
Peu après ou un peu plus tard, l'élimination et
l'évacuation des corps.
L'invisibilisation des dépouilles.
Voilà.
Voilà. Donc, il y avait les systèmes les plus horribles, que c'était justement de jeter les champs depuis un avion en vol, mais il y avait d'autres systèmes, mais c'était justement, et ça a été accompagné par une négation permanente de l'information. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, quand les mères d'autres familiers allaient demander ce qui s'était passé avec telle ou telle personne, il n'y avait plus d'informations. Et puis, on a vu aussi
que les archives avaient été falsifiées.
Dans les archives, des falsifications, des propagandes, c'est ce qu'on appelle maintenant fake news, qui étaient déjà mises en place. Et l'ESMA fait partie de tout ce système. Donc, comme Marina a dit, il y a eu près de 5000 personnes tuées. Mais l'intérêt aussi de voir de ce qu'on a étudié dans ce livre, c'est de comprendre qu'il y avait un deuxième système. Un deuxième système qui a à voir avec une autre chose parallèle, que c'est l'ambition des pouvoirs politiques de l'amiral Massera, qui était à la tête de l'armée, de la marine. Et donc, lui, il avait son propre projet politique et il a découvert comment se servir de l'ESMA et de séquestrer de l'ESMA pour l'accomplir. Donc, un peu toute cette histoire, que c'est assez sinistre, c'est ce qu'on raconte ici.
Alors, nous allons faire une pause et nous allons revenir justement sur Massera parce que c'est emblématique de l'ESMA. Et on va parler aussi donc de son bras droit,
Acosta.
Merci.
Aunque le des la mano al olvido, aunque te pierdas en el sufrir, no encontrarás jamás el camino, es tu destino volver. Siempre en ti, en la mirada de un niño en el sol de abril. Siempre.
cuenta que nada ha muerto, todo perdura con el amar. Soy una hermana que da consuelo a sus hermanos que ves llorar. Soy un amante que tú recuerdas, soy un instante de la eternidad. Siempre aquí, siempre en ti, en la mirada de un niño en el sol de abril. Siempre aquí, siempre en ti, no volveré porque no partí. Siempre aquí, siempre en ti, en la mirada de un niño en el sol de abril. Siempre aquí, siempre en ti, no volveré porque no partí.
Dans la deuxième partie de l'émission, avec Marina Franco et Claudia Feld, pour Crime contre l'humanité de Alesma, anatomie d'un centre de détention clandestin en Argentine, 1976-1983, chez Anna Moza. Alors, nous voudrions rappeler que c'est un ouvrage collectif. Ça, on n'a pas eu le temps de le dire en première partie. C'est différentes voix, différentes mains, mais un même fil conducteur. C'est-à-dire, c'est le terrorisme d'État qu'il faut comprendre, et tout ceci dans le cadre PICT.
C'est un projet financé par l'État argentin, mais il faut dire maintenant qu'avec le gouvernement de Milei, tous ces projets ont été stoppés, donc ça n'existe plus.
D'accord. Mais votre livre a eu le temps de sortir avant que Milei n'arrive.
Oui.
Ouf.
Et puis de dire aussi que vous êtes, que ce ne sont que des chercheurs et chercheuses.
Voilà. Hein, le Conseil national scientifique.
Voilà. Hein. Donc c'est un travail à la fois d'historien, d'anthropologue, de sociologue. Vous-même, toutes les deux, vous êtes.
Moi, je suis de Infocom, sciences de l'information et de communication.
Oui, ça, et moi, je suis historienne.
Voilà.
Et je vous remercie d'expliquer ça parce qu'il faut dire aussi, et pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante qu'on a fait. Je ne sais pas, Claudia, si tu es d'accord avec moi. Oui. C'est que c'est un bouquin tout à fait scientifique et le résultat d'une recherche scientifique collective, mais surtout c'est un bouquin pour le grand public. Mm-hmm. C'est pas un bouquin pour les spécialistes, c'est un bouquin fait pour raconter cette histoire, raconter la répression argentine, raconter ce qui est l'ESMA, ce qui a été l'ESMA, mais pour le grand public. Et même il y a un premier chapitre qui est assez linéaire, un peu plus simple que le reste, et ça on l'a pensé surtout pour que ça pouvait fonctionner dans les écoles. Et là, on sait maintenant que ça circule dans les écoles pour les étudiants secondaires. Donc, il y a tout un côté, comment vous dire, politique, si vous voulez, éthique et morale dans ces bouquins, que ce n'est pas juste de la recherche scientifique.
C'est à la fois grand public et très précis.
Exact.
C'est quand même très précis. On a des informations, une foule d'informations, mais le fil conducteur, c'est comprendre la violence d'État. Mmh. Et nous, comme nous sommes des anarchistes et que l'État, ce n'est pas vraiment trop notre tasse de thé, ça nous convient tout à fait. N'est-ce pas, Hélène ?
Oui, oui. D'autant qu'on vit aussi en France avec des connexions.
Mais ça, on va en revenir avec le portrait de M. Massera.
D'extrême droite qui traverse l'océan.
Hein. Alors, qui est M. Massera ? Et qui est Monsieur Acosta.
Je commence avec Massera. Donc Massera, c'était l'un des membres de la junte militaire au pouvoir. Donc quand le coup d'État s'est produit, l'Argentine commence à être gouvernée par une junte militaire de trois personnes. Les chefs de l'armée de terre, qui s'appelait Videla, qui était aussi le président, puis le chef de la marine, qui s'appelait Massera, et puis le chef de l'aéronautique, qui s'appelait Agosti. Donc, ces trois personnes détenaient tous les pouvoirs pendant la première, les premiers moments de la dictature. Puis, ils ont été remplacés par une autre chante. Donc, il y a eu au total quatre chantes. Mais Massera, il appartenait au pouvoir, il appartenait au gouvernement, mais il faisait aussi son propre projet politique. Et qu'il le faisait contre Videla. Et donc il y avait pas mal de problèmes intra-militaires. Et c'est intéressant de savoir que Massera, quand il fait son projet, donc utilise l'ESMA pour avoir des main-d'œuvre, des esclaves, qui c'était exactement les personnes enlevées, qui étaient laissées en vie. Et pour faire des travaux forcés différents, des travaux manuels et des travaux intellectuels. J'ai dit une seule chose et on passe à Acosta, qui est aussi quelqu'un de très important dans cette histoire. Et comme Massera faisait son propre projet à l'encontre de Videla, donc il devait faire une partie de ce projet en clandestinité. Donc il y avait la clandestinité qui avait à voir avec l'opinion publique, donc de ne pas montrer qu'il y avait disparu, de ne pas montrer qu'il y avait cette violence
étatique. Et les centres de détention secrets.
Et qu'il n'y avait pas de centres de détention, mais à l'ESMA, il y avait une deuxième couche de clandestinité, comme quoi la plupart des actions qui avaient à voir avec le projet de Massera de se transformer en une sortie démocratique pour la transition, donc d'être élu comme président pour la transition, ça c'était son projet. Donc ce projet se maintenait en clandestinité par rapport au reste du pouvoir militaire. Donc comment on l'a fait ?
Comment on a fait ? Et là, on rentre dans les personnages mais vraiment clés de l'ESMA, que c'est Acosta. Acosta était le chef, pas formel en réalité, de l'ESMA, mais ça a été le chef réel du groupe de travail. C'était groupe de travail, c'était le nom de chaque unité militaire de répression. Et donc, et Acosta, c'était le chef du groupe de travail de l'ESMA. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il a été chef pendant pas plus que 12 ans, mais c'est lui, à ce moment-là, pendant 12 ans, qu'il a mis en place tous les projets clandestins que Claudia vient d'expliquer. Et pourquoi ça? Parce qu'il était lié, Massera et lui, ils étaient vraiment travaillés ensemble.
Main dans la main, comme on dit en français.
Pardon? Main dans la main. Exactement, merci. Et donc, ils sont mis tous les systèmes répressifs de l'ESMA, mais vraiment pour aider les projets politiques de Massera, que Claudia vient d'expliquer. Et c'est Acosta justement qui a, mais vraiment, on peut dire, imaginé et mis en place l'idée d'utiliser les victimes séquestrées qui étaient en vie et qui vivaient à l'ESMA, pour le dire comme ça. Et il les a utilisées pour faire des travaux forcés. Et en plus, c'est beaucoup plus que ça. Ils ont fait des travaux forcés, mais ils ont aussi entamé une certaine, c'est difficile à dire comme ça, mais une certaine vie quotidienne à l'ESMA qui a permis de mettre en place des rapports et des relations très compliquées entre des victimes et des perpétrateurs ou des bourreaux. Donc tout ça a été vraiment mis en place par Acosta. Imaginé, mais surtout mis en place par Acosta. Donc c'est vraiment, on peut dire que c'est la tête
pensante.
La tête pensante de l'ESMA. Et ça, c'est ça qui a permis finalement que l'ESMA soit un centre clandestin comme les autres et à la fois une chose complètement différente.
Qui sort de l'ordinaire.
Exact.
Alors, l'ESMA, c'est une école qui il a été fondée en 1897. 1928, c'est son site définitif. C'est censé être une école navale prestigieuse. Mais bon, les fameux groupes de travail, il y a dedans des Pedros, des Pablos, des Verdes. Bon, ça, il faut lire le livre pour... on n'a pas trop le temps de revenir là-dessus. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on explique bien que le groupe de travail, c'est très important. Pourquoi ? Parce que notre pays a joué un rôle dans l'ESMA. Il y avait un groupe de travail à Paris qui dépendait de l'ambassade d'Argentine. Nous avons deux religieuses qui ont été tuées en Argentine. Elles étaient détenues à l'ESMA et même le pouvoir politique de Videla n'était pas au courant qu'elles étaient à l'ESMA. Mmh. Les Français ont demandé des nouvelles de ces religieuses et on ne savait pas où elles étaient. Elles avaient littéralement disparu. Ça vous donne une petite idée de ce qui se passait à l'ESMA et dans le pays en général. Et ça, vous le dites. Moi, j'avais entendu parler de l'histoire de ces religieuses, mais j'ignorais que même Videla ne savait pas qu'elles étaient passées par l'ESMA.
Oui, en réalité, ça fait partie de comment Massera et Videla fonctionnaient l'un contre l'autre et comment Massera voulait salir Videla avec des situations de violence qui n'appartenaient pas vraiment au gouvernement de Videla, donc à l'égide du pouvoir de Videla.
Voilà, parce qu'il a dit que c'était l'armée qui était responsable de la disparition de ces religieuses, voilà, alors que c'était la marine.
Une fois les religieuses disparues, deux jours après, et c'est l'ambassade française qui commence à demander des nouvelles. Mm-hmm. Et à qui elle demande des nouvelles? Au ministère des Affaires étrangères argentin, qui était sous l'égide de la marine. Ça veut dire que les personnes qui recevaient l'ambassadeur français pour leur donner soi-disant des nouvelles, c'était des mêmes personnes liées à l'ESMA. Donc, ces personnes qui étaient dans le ministère des Affaires étrangères savaient parfaitement ce qui s'était passé. Donc, disait une autre fois qu'il ne savait rien. Donc, l'ambassade française a commencé à, dans sa tête, il sautait le ministère des Relations étrangères et il s'allait vers les présidents. Mm-hmm. Donc, ils ont demandé à plusieurs fois de voir les présidents. Même, il y a eu le président français, Giscard d'Estaing, qui a envoyé des lettres pour demander des nouvelles sur la religieuse, mais dirigé à Videla. Donc, de ce point de vue, donc, Massera a utilisé aussi ce cas pour se montrer lui-même comme quelqu'un favorable aux droits humains, tandis que Videla, soi-disant, c'était le coupable de la situation.
Le coupable tout trouvé, alors que c'était pas du tout
c'était
le cas.
C'était pas la vérité. Mais
Videla, pour une fois, on pouvait pas l'incriminer.
Non, mais Videla, oui. Et donc, c'était un chanté de gouvernement et tout était coupable de la même manière. Mais pour ce cas spécifiquement,
les deux religieuses,
il a été utilisé par Massera. Pourquoi? Parce qu'il voulait projeter sa figure politique vers l'étranger et il voulait convaincre les Français, donc le gouvernement français de l'époque, que lui, il allait médier face à Videla pour trouver les
deux religieuses qui étaient mortes entre-temps.
Et finalement, ça a terminé avec une situation qu'il faut raconter, que c'est que Giscard d'Estaing, finalement, reçoit Massera en 1978 ici à Paris, et que à ce moment-là il se rend compte que Massera n'avait aucune information et que c'était une sorte de piège,
le jeu de poker menteur comme on dit en français.
Exact.
Deux personnes arrivent à s'échapper de l'ESMA, elles arrivent à informer pour la première fois de ce qui se passe. Il y en a une qui est rattrapée et qui est sauvagement assassinée, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il va y avoir un témoignage devant le Parlement français. Et c'est notre pays, c'est parce que nous sommes en France. Et je voudrais que vous reveniez sur cet aspect-là, si c'est possible.
Oui, alors c'est une des choses, mais vraiment, qui font ou qui montrent les liens entre l'Argentine de la dictature et la France. Donc il y a plusieurs choses. Claudia vient d'expliquer l'histoire de religieuses enlevées. Mais il y a aussi une autre histoire assez touchante, si vous voulez, touchante pour moi, c'est le fait qu'en 1979, trois femmes rescapées de l'ESMA qui ont été libérées, ça il faut le dire, ont été libérées par les militaires. Et bien, une petite explication pour vous dire qu'en 1979, il y a eu une commission des droits humains de l'Organisation des États américains qui est venue en Argentine. Et à ce moment-là, les militaires de l'ESMA ont libéré beaucoup, beaucoup de victimes pour éviter d'être plus évident, d'être plus clair la situation. Pour cacher la situation. Ils ont libéré quelques victimes, ils ont amené des autres dans une île au delta du Tigre. Donc, c'est toute une histoire assez compliquée. Mais en tout cas, ces trois femmes qui ont été libérées, elles sont venues en Europe en tant qu'exilées et réfugiées. Et elles sont venues en particulier à Paris, au Parlement français pour témoigner ce qui s'est passé à l'ESMA. Et ça a été les premiers témoignages qu'on connaît et qui a vraiment ouvert
La boîte de Pandore.
Exactement. Et c'est la première fois qu'on a su vraiment qu'est-ce qui s'est passé à l'ESMA et comment ça fonctionnait la répression en Argentine. Mais il y a une autre chose qui s'est passée avec ces témoignages, c'est que ces trois femmes ont dit pour la première fois que les disparus en Argentine, ils étaient tous, la plupart d'eux, assassinés. Parce que jusqu'à ce moment-là, les gens pensaient, surtout les maires de la place de Mai et les familles des victimes, qu'ils allaient trouver leurs proches vivants.
Non, elles ont dit la vérité.
Et ça, c'est une brèche absolument importante qui va évidemment avoir des répercussions mondiales, mais en Argentine particulièrement.
Je voudrais qu'on revienne sur une campagne autour d'un événement mondial, qui est la Coupe du Monde en Argentine.
De 78.
Beaucoup de monde ont dit qu'il n'était pas possible d'aller regarder des matchs à côté de centres de détention dans un pays qui pratiquait les disparitions forcées. L'Argentine, et notamment Massera, il faudrait que vous expliquiez comment ils ont réagi. Parce que ça montre aussi la particularité de l'ESMA.
Alors, la Coupe du monde de football, ça a été aussi important parce que ça montre aussi, et ça fait pas partie en particulier de l'histoire de l'ESMA, mais ça montre un lien très particulier, encore une fois, entre la France et l'Argentine. Pourquoi ? Parce qu'il faut souligner que la France a été à l'origine de tout un mouvement de boycott à la Coupe du monde de football, qui était très important, et c'était surtout les organisations de solidarité françaises qui ont vraiment poussé pour organiser les boycotts. Là, j'aime bien le souligner. Cela dit, à l'ESMA, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pendant la Coupe du Monde, et même les mois avant la Coupe du Monde, le gouvernement argentin, donc la chambre militaire, dénonçait tout le temps qu'en Europe, partout dans le monde, il y avait une campagne contre l'Argentine, et que tout le monde était en train de dénoncer l'Argentine, mais que personne ne comprenait pas, et qu'il fallait expliquer que le combat de la subversion était nécessaire. Et donc, il fallait montrer la vérité sur l'Argentine. Ça, c'était le discours du gouvernement. Donc, à l'ESMA, ce qui s'est passé, on peut le raconter avec des petites anecdotes.
Oui.
Donc, par exemple, les bourreaux ont obligé, une fois que l'Argentine a gagné la Coupe du Monde, bien sûr, on est presque sûr que ça a été triché complètement, mais finalement, l'Argentine a gagné la Coupe du Monde. Et donc, par exemple, les bourreaux ont obligé aux victimes, surtout des femmes, de sortir de l'ESMA et aller au centre-ville, donc autour de l'obélisque, que c'est vraiment l'endroit où en Argentine se font les manifs, les concentrations, les fêtes populaires. Donc, ils ont obligé les victimes d'aller avec eux pour fêter la Coupe du Monde. Ça, c'est juste une petite anecdote pour vous expliquer, pour vous montrer à quel point on pense qu'il y a une perversité qui s'est développée vraiment à l'intérieur de l'ESMA.
Et si on voit la ville de Buenos Aires, on voit que l'ESMA est vraiment à côté de l'estade plus important où la Coupe se jouait à ce qu'on appelle l'estade de River Plate. Et c'est vraiment moins d'un kilomètre de différence, c'est sur la même avenue presque. Donc, et la plupart des gens qui viennent au musée de l'ESMA sont vraiment choqués par cette situation, de voir à quel point cette Coupe du Monde qui recevait des milliers et des milliers d'étrangers, des milliers de personnes de l'Argentine, et finalement étaient à côté de l'ESMA.
Mais et surtout que les cris des torturés étaient couverts par les cris des supporters. Ça, il faut le reconnaître.
On peut aussi se poser la question comment les étudiants de l'ESMA pouvaient étudier à côté du centre de torture.
Mais pas seulement ils étudiaient, mais ceux qui destaquaient, ceux qui étaient des bons élèves, ils travaillaient dans les centres clandestins comme gardes, pour garder les prisonniers. Donc, ils participaient dans la soi-disant guerre contre la subversion, donc ils étaient fiers de ça. Tout à fait. Ouais.
Et donc, c'est là que c'est important ce que vous dites, parce que c'était toute l'école, et pas simplement la partie où étaient les détenus et les torturés, mais c'est toute l'école qui participait à cette opération.
Bah, d'ailleurs ils croisaient les détenus bandés et menottés, et ça ne posait pas de problème à leur conscience. Vous le dites dans le livre.
Oui, toutes ces types de choses, c'est important de les souligner, parce que ça montre à quel point l'ESMA était autre chose. Où il y a eu mais vraiment des relations à l'intérieur de l'ESMA entre les victimes et les bourreaux.
D'une perversité incroyable.
Exactement, exactement. Même c'est si on, avec Claudia, on pense qu'on a vraiment compris à quel point tout ça était lié au projet politique de Massera, ça reste aussi qu'il y a des choses incroyables. Incroyables.
Oui. Et pour ce qui est la relation entre les victimes et les bourreaux, il y a un chapitre spécifique.
Oui. Oui.
Et il faut dire que c'était des relations manipulées, créées. Et de la part des bourreaux. Donc c'est des choses créées exprès pour créer de la suspicion entre les victimes, pour les briser.
Pour les briser, oui.
Pour ne pas trouver la résistance. Donc c'est important à comprendre que c'était pas seulement la torture et l'exécution, pas seulement l'assassinat et les tabassements, mais aussi il y avait une sorte de violence très perverse qui était beaucoup moins visible, mais qui se produisait à l'intérieur des liens entre les personnes et qui étaient là-bas.
De toute façon, les trois femmes qui ont témoigné devant le Parlement, elles l'ont bien expliqué. Et ce témoignage a été bouleversant. Je veux dire, ceux qui ont assisté ou qui ont entendu parler de ça, ils ont commencé à comprendre qu'on parlait beaucoup du Chili, mais on parlait beaucoup moins de l'Argentine, et qu'il fallait peut-être se préoccuper de ce qui se passait en Argentine. Bon, le Chili, il y avait la mort emblématique de Monsieur Allende, du président Allende, qui faisait qu'on ne pouvait pas ne pas parler. Il y avait tous les réfugiés qui maintenaient la pression. Je pense notamment à Monsieur Guzman avec la bataille, ses films, les conférences et tout le reste. Mais ce témoignage-là a montré à quel point l'Argentine s'était hissée au niveau du Chili et même était en train de le dépasser.
Exactement,
avec l'ESMA.
Exactement. L'histoire de l'Argentine était tellement compliquée que c'était difficile. Surtout, il y avait le péronisme au milieu, que c'était difficile pour les Français et en Europe en général de comprendre et de comprendre qui c'était la dictature, qui c'était mais vraiment les causes, les conséquences. Donc ça a pris du temps. Autant que pour les Chili, c'était clair. Il y avait un gouvernement démocratique socialiste qui a été renversé par un communautaire. Donc les Chili, c'était clair. Et l'Argentine, c'était beaucoup plus compliqué de comprendre jusqu'au moment où la violence de la répression et surtout la disparition forcée des personnes tellement horrible que ça a vraiment pris l'espace public européen, français bien sûr, et surtout à l'ONU. Et c'est à l'ONU avec plusieurs délégations diplomatiques et plusieurs organismes de droits humains que ça a été posé le problème de la disparition forcée des personnes en tant que crime contre l'humanité tout à fait différent du reste.
Voilà.
Et donc ça a été vraiment la conséquence de la dénonciation sur la situation argentine.
Alors, il faut savoir que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Donc c'est poser la question des poursuites et de l'enregistrement et de la documentation pour faire payer et les responsables. Donc Videla, Massera et le troisième dont j'ai oublié le
nom. Agosti.
Voilà. On peut revenir sur les accouchements. Il y a eu à peu près 30 accouchements à l'ESMA.
Alors ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre.
Hein. Ouais.
Voilà. On a connu en Espagne les bébés volés sous Franco pour aller les mettre dans des familles franquistes, de bon teint, catholiques, etc. Et donc on a caché aux femmes que l'enfant était encore vivant. Hein, ça, on connaît. Mais en Argentine, pourquoi dans l'ESMA, on a décidé de faire venir des femmes et qu'elles accouchent?
On ne sait pas seulement dans l'ESMA. Donc,
oui, c'est dans tous les centres de détention.
Les centres de détention, mais il y avait des centres de détention qui étaient un peu plus petits, qui n'avaient pas trop de personnel, je l'ai dit comme ça, entre guillemets. Et tandis qu'à l'ESMA, il y avait un endroit spécifique et un médecin, je dis entre guillemets, parce que c'était un médecin qui collaborait avec les militaires et qui s'est chargé de ça. Et l'attention médicale était inexistante, donc c'était seulement de pouvoir maintenir la femme enceinte en vie jusqu'au moment de l'accouchement. Et puis, l'idée c'était semblable, c'est entre guillemets, de nouveau, et sauver les bébés d'une famille subversive et de les donner à des familles de militaires ou de la confiance des militaires. Mmh. Et les militaires qui voulaient avoir un bébé dans sa famille et profiter. Mmh. Et donc, l'identité de cette personne, de ce bébé, de ce petit enfant né, était faussée. Parfois, les dates de naissance aussi étaient faussées. Donc, il y a eu des bébés qui ont reçu beaucoup après quelle était sa véritable date de naissance et évidemment aussi son identité. Et voilà, donc, c'était une petite spécialisation dans l'ESMA qui avait à voir avec d'autres centres, mais il y a eu pas mal de centres clandestins où il y a eu des bébés enlevés, et ce qu'on dit approprié, ça veut dire qu'ils volent le bébé et ils le notent sous un faux nom, sous un faux nom de famille. Mais il faut dire aussi que pour contrer ça, et l'énorme tâche qui a fait l'association des grands-mères de la place de Mai, depuis la dictature même, pour les trouver, et qu'ils sont trouvés...
Alors, 140.
Oui. Alors, il y a un excellent documentaire que j'ai vu, où elles ont lu une fois un article où un spécialiste de l'ADN expliquait qu'on pouvait retrouver et dater l'ADN à partir des grands-parents.
Exact.
Elles l'ont fait venir en Argentine et ils ont lancé la banque de données des grands-mères. Et les enfants qui avaient des doutes pouvaient se rapprocher de cette banque de données et c'est comme ça qu'elles ont retrouvé les 140 enfants. Et on en retrouve encore.
Oui, et ils peuvent encore. Ils peuvent encore aller...
Ils peuvent, parce que c'est imprescriptible. C'est un crime contre l'humanité, donc c'est imprescriptible. Oui. Donc les grands-mères, donc notamment les présidents, elle a eu, juste avant sa mort, elle a pu retrouver sa petite fille, si mes souvenirs sont exacts.
Ce qui est intéressant de ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que ça montre à quel point l'histoire de la dictature est une histoire complètement ouverte en Argentine.
Tout à fait.
Et donc la recherche des enfants, des petits-enfants nés en captivité ou séquestrés avec leur mère, c'est toujours quelque chose qui fait partie de l'histoire actuelle de notre pays. Et à chaque fois qu'il y a un... maintenant, ils sont des adultes, bien sûr, des personnes de 40 ans, 50 ans.
Donc, 40-50 ans.
Exactement.
Voilà.
Donc, à chaque fois que les banques de données génétiques permettent de retrouver un ancien, un petit enfant, maintenant un adulte, bien sûr, c'est vraiment
un événement national.
Je ne sais pas si on peut le dire comme ça aujourd'hui, mais
si, c'est le cas.
Non, c'est plus que ça. C'est une fête. Mm-hmm. Je vous assure que c'est une fête dans le monde lié au trauma.
Oui.
C'est une fête.
Je confirme.
Et là, la situation est beaucoup plus compliquée, bien sûr, mais ça reste un événement au niveau national. Et on a les calculs, c'est qu'on a 400 enfants volés au moment de leur naissance, ou avec une âge mais vraiment très petite. Et après, parmi ces 400, on a trouvé 140. Et tout ça, ça a été grâce à l'action des grands-mères de la place des Mai, avec les soutiens
de la communauté internationale.
Exactement. Et la France a aussi aidé.
Voilà. Et des généalogistes, non, des généticiens. Donc, il en reste quelques 300.
Exactement.
Et c'est pour ça qu'il y a des spots publicitaires qui, régulièrement à la télévision, à la radio, disent aux enfants et aux adultes, si vous avez des doutes, rapprochez-vous de nous et on fera le test.
Et maintenant, elles se battent, donc les grands-mères de la place de Mai, elles se battent pour éviter que le gouvernement de Milei ne ferme cette banque de données nationale de données génétiques.
Je tenais à le faire, faire savoir.
Et de fermer aussi les spots.
Voilà.
Évidemment. Ouais. Ouais. Évidemment. Mmh. Parce que ça, c'est quand même important pour retrouver ses racines.
Alors, pour vous dire l'espèce d'humour pervers de l'ESMA, ça s'appelait la petite Sarda, la salle où étaient les accouchements. C'était le nom d'une clinique célèbre à Buenos Aires. Ils l'ont appelé la petite Sarda.
L'avenue du bonheur.
L'avenue du bonheur, voilà.
Ils avaient torturé les gens.
L'espace des tortures s'appelait l'avenue du bonheur.
Et quand on allait vous tuer, on vous transférait.
Mm-hmm. Oui, il y avait tout un vocabulaire adapté.
Et donc les survivants, les 600 survivants, ils savaient qu'ils devaient faire certaines choses pour éviter d'être transférés. Ils avaient la hantise d'être transférés parce qu'ils savaient qu'ils avaient une mission témoignée.
Exactement. Et pour les victimes c'était, qui étaient séquestrées à l'ESMA, c'était une manière d'essayer de survivre et d'aider d'autres victimes qui étaient aussi séquestrées.
Voilà.
Mais du point de vue des militaires, et c'est ça que je veux dire, du point de vue des militaires, tout ça c'était ce qui s'appelait à l'époque, et c'était Acosta bien sûr à la tête de tout ça, c'était les processus de récupération. Donc l'idée qu'il pouvait mais vraiment faire changer ou changer la tête de ses victimes pour les faire ou les transformer en citoyens et citoyennes du bien. Donc pas des subversifs, mais qu'il pouvait mais vraiment changer et revenir en arrière pour être de bons citoyens à Chantan. Et donc, cette idée de processus de récupération, c'est aussi lié, vous allez voir à tous les liens, c'était aussi lié à la possibilité que ces personnes fassent des travaux forcés pour soutenir le projet politique de Massera. Donc, comme ça, on arrive au cercle le plus pervers, si vous voulez, du fonctionnement de l'ESMA.
Alors, je vais ajouter seulement une chose. Donc, ces gens-là qui étaient choisis pour les processus de récupération et pour ces travaux forcés, c'était la plupart des travaux intellectuels. Et pourquoi? Parce que les marins eux-mêmes, ils n'avaient aucune ressource pour un projet politique.
Tout à fait.
Donc, ils s'utilisaient, ils se sont servis des militants de Montoneros et enlevés, torturés, menacés de mort, avec leur famille menacée, pour soutenir, pour conseiller ce projet politique de Massera, pour élaborer de la propagande. C'était des gens, donc les grandes hiérarchies des militants qui étaient dans l'ESMA, c'était des professionnels, des gens qui parlaient beaucoup de langues, des gens qui savaient beaucoup de politique.
Qui avaient une haute éducation.
Voilà, et c'est eux qui étaient utilisés pour se servir pour le projet politique. Donc c'est pour inventer une force politique.
Voilà.
C'est ça ce que voulait Massera.
Ben écoutez, on va faire une pause et on va revenir sur ce processus de récupération, le travail forcé des prisonniers séquestrés intellectuellement.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos.
el mismo canto, el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la
Lors de cet entretien, nous avons choisi comme pause musicale une chanteuse argentine, Mercedes Sosa. Dans trois chansons, Alfonsina et Elmar, une autre avec Claudia Meyer, Siempre en ti, et une troisième, Gracias a la vida. Mercedes Sosa, 1935-2009, fut appelée la Negra par ses admirateurs. Elle est une chanteuse très populaire, elle chante des poètes, mais elle chante aussi Violeta Parra ou Atahualpa Yupanqui. Elle est arrêtée en plein concert en 1979 et dut fuir l'Argentine avant d'y revenir en 1982, quelques mois avant la chute du régime militaire. Sa chanson Alfonsina y Almar est dédiée à une poétesse qui se suicida en 1938 dans la mer.
Nous sommes dans la conclusion de notre émission avec Marina Franco et Claudia Feld pour leur livre qu'elles ont dirigé, Crimes contre l'humanité à l'ESMA, Anatomie d'un centre de détention clandestin en Argentine, 1976-1983, chez Anamosa. Mesdames, pour conclure, si on devait faire dans les 16 chapitres, quel est le plus emblématique de ce qui a servi à M. Massera pour son projet politique ? C'est la récupération, je pense.
Oui, alors c'est difficile de répondre rapidement, dans le sens qu'on pense que c'est plutôt l'articulation des différentes choses qui fait la particularité de l'ESMA. Et donc, cela dit, c'est au centre de cette articulation des choses, de ces cercles pervers que vient d'expliquer, au centre, il y a le processus de récupération. C'est l'utilisation de travaux des victimes, mais aussi l'utilisation des femmes, pour le dire comme ça. Et donc, c'est au centre de tout ça, il y a le processus de récupération avec toute sa perversité, dans le sens de penser qu'il pouvait récupérer les personnes, récupérer du point de vue idéologique, récupérer du point de vue humain. Je vous dis juste un exemple. Par exemple, les femmes devaient se habiller avec une choupe pour montrer qu'elles étaient en train de se récupérer et s'habiller comme des femmes, ou se maquiller, etc. Donc, j'ajoute ça pour vous montrer à quel point la récupération est complexe comme idée, mais on pense, avec Claude et avec toute l'équipe de recherche, que c'est au centre de ces cercles pervers qui fait l'ESMA, au centre de ça, il y a la récupération.
Je pense que l'emblématique de l'ESMA et cette exceptionnalité de l'ESMA, et on peut les synthétiser en trois éléments. Donc, premier élément a déjà été dit, donc l'utilisation des militants hommes et femmes par son expertise, par son militantisme, par ses connaissances politiques et aussi par sa capacité, par exemple, de falsifier des documents que les marins pouvaient utiliser pour leurs opérations. Mm-hmm. Donc d'abord ça. Deuxième, les vols à grande escale des biens immeubles et donc les recherche de l'argent et l'enrichissement
personnel.
Pas personnel, mais personnel, pour les groupes, pour la cause de Massera.
Oui.
Donc, c'était pas seulement pour chaque marin, mais c'était pour que la cause de Massera continue et puisse s'épandre. Donc,
se répandre.
Se répandre. Et puis, troisième élément, l'illimité de ses pouvoirs. Donc, l'illimité dans le temps, donc, parce que ça a duré seulement 2 ans, mais c'était beaucoup de temps. Et pour ce type de choses clandestines, dans la clandestinité, mais aussi cette extension géographique. Donc on a parlé d'un centre de propagande qui fonctionnait au cœur de Paris, qui dépendait de l'ESMA, qui fonctionnait dans l'ambassade argentine à Paris, mais aussi l'idée que l'ESMA pouvait prendre une personne qui était séquestrée en ESMA, et pouvait l'amener jusqu'à la frontière, et à 2000 km pour voir si s'il y avait de nouveaux militants rentrant pour la frontière, et l'amener à nouveau jusqu'à l'ESMA en tant que séquestré, sans que personne ne dise rien dans le chemin. Donc ce type de choses, c'était donc...
Elle a même été amenée à Paris, une personne, certaines personnes.
Deux femmes.
Deux femmes, voilà.
Avec une des femmes, avec leur fille qui a été enregistrée, inscrite à l'école à Paris.
Donc, avec un faux nom. Avec un faux nom et avec des documents falsifiés par la même ESMA, dans les sous-sols de l'ESMA, avec le travail forcé des séquestrés. Donc, c'est ça.
Donc, plusieurs couches de perversité.
Voilà. On n'a pas eu le temps d'insérer tout ceci, toute cette collaboration dans, au niveau de tous les pays d'Amérique du Sud. Donc, l'Argentine, le Chili. On a parlé du Chili, de l'Argentine. Mais on pourrait parler d'autres pays. Donc, mais l'espace... C'est particulier, c'est emblématique, et pour l'humanité, il faut le savoir. Ce qu'on est capable de faire au nom de la lutte contre l'ennemi intérieur, vous l'avez démontré brillamment, mesdames, avec toute votre équipe, et on vous en remercie. On espère que les Argentins vont se saisir de ce livre et l'utiliser pour batailler contre un président d'extrême droite qui met dans la rue des millions de personnes contre une réforme du travail, et le lendemain, il l'a fait adopter par le Parlement. C'est un mépris du peuple, comme on l'a rarement vu dans un pays. Je parle pour l'Argentine, mais je pourrais parler pour d'autres pays.
Et d'autres continents.
Voilà.
Et d'autres continents.
Ce sera notre conclusion. Les dictateurs
s'appuient toujours sur des militaires.
Voilà.
Toujours.
Ouais.
Ils en ont besoin. Ils ont besoin d'une force qui obéisse. Voilà. Et donc, là, cette dictature, elle gangrène quand même de nombreux continents. Et malheureusement, on n'est pas très optimiste.
Mais
c'est bien. Votre livre nous permet de comprendre comment, dans un pays qui est inséré dans, économiquement dans le monde, qui a des frontières avec d'autres pays, impunément peut le faire, quoi. Et ça serait bien que chacun et chacune, on puisse comprendre comment ça se gangrène petit à petit, même dans ce qu'on appelle les démocraties.
Mais de toute façon, la première bataille, c'est l'information. Ensuite, la réaction. Et ça, dans la bataille de l'information, vous avez vraiment, mesdames, bravo, chapeau.
Merci.
Merci beaucoup. Merci de nous recevoir et merci de votre soutien.
Mais écoutez, c'est la moindre des choses et nous sommes vraiment enchantés de vous avoir reçus. On va remercier Blandine, sans qui il n'y aurait pas d'émission, qui a fait la technique. Hélène, je te souhaite...
Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues je vis la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent s'est dessiné en mille facettes, interrogez les rues d'Anguin, sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront il faut avoir un grain, c'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le temps, cela peut arriver aux prophètes, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi cassez les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, avant que je perds la tête. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me petit futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche aux crèves. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander.
témoin d'un coup de main. Car celui qui m'a jugé déteste les maghrébins. Même ce qu'on construit, le musil aura jamais de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. D'un rythme de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges, ce qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blousé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer à sa tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai dit gamin. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse fout de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse fout de la preuve.